Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse musulmane comme un défi républicain. Le lien entre la frange islamique de la nation et notamment dans sa jeunesse et la République, c'est ce que Shihab Nasser va nous entretenir. Shihab Nasser, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes historien des idées, vous êtes islamologue, vous tenez un discours rationnel et intelligent sur le fait islamique. Je le rappelle toujours, c'est la définition même de l'islamologie et nous aurons à en parler. Et vous êtes passionné de l'histoire de la vie intellectuelle d'une manière générale et de ce qui touche donc au fait islamique d'une manière particulière. C'est vrai que la jeunesse d'une manière générale et le devenir des nations et la nation française ne peut avoir un avenir radieux que si l'ensemble des composantes qui la constituent, y compris la composante islamique, est dans une approche de bonne formation, d'intelligence, de sérénité et d'esprit de patriotisme.
Il me semble que c'est l'un des sujets les plus cruciaux pour le devenir de la République française. En témoigne une problématique lancinante depuis 30 ans, qui est l'intégration des Français de tradition musulmane dans la société française. Les événements récents, sanglants, auxquels nous avons assisté dans la société française, je pense évidemment à l'effroi des attentats, nous ont mis en lumière cette problématique. Et cette problématique, c'est ces marges historiques qui nous ont interrogés sur la force de notre pacte social et sur ce que signifie cette hydre identitaire. À quoi avons-nous affaire ?
Shihab Nasser, vous avez commencé votre réponse par un mot qui soulève beaucoup de débats, qui est celui de l'intégration. Est-ce qu'on continue à parler d'intégration de ceux dont les aïeux ont payé le tribut du sang à Verdun, par exemple? Et selon une étude récente, il y a eu davantage de Mohamed que de Mathieu ou de Martin dans les tombes. C'est qu'il y a une difficulté réelle si bien plus tard, à la cinquième génération, on a une seule composante de la nation dont on ne cesse pas d'énumérer la génération. Et on continue à évoquer la question d'intégration. Donc, où est-ce qu'il y a eu des difficultés pour que cette problématique réelle de l'intégration se pose?
Alors, mon cher Aleph, déjà, il me semble que sur cette question-là, nous avons un déficit historique. Vous avez souligné la profondeur et la place que revêt l'islam dans notre récit national. Il me semble que c'est profondément ou largement méconnu pour une partie de notre jeunesse.
Quelle qu'elle soit.
Et je ne parle pas évidemment d'une partie de nos élites qui sont très sensibles évidemment à la profondeur de ce récit. Mais il me semble qu'en dans une partie du corps social, ce point est méconnu. Ensuite, sur les difficultés auxquelles nous avons assisté dans la société française depuis 30 ans. Récemment, j'écoutais sur les ondes de France Culture un homme d'une haute autorité, je pense à Hubert Védrine, qui disait dans l'émission Esprit Public que ce problème n'a pas été anticipé par les élites depuis 30 ans. Et il me semble que c'est le point de départ, c'est le point de diagnostic. C'est-à-dire qu'on a une forte population d'arrivées de migrants sur le territoire national qui était originaire de la rive sud de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne. Et nous n'avons pas anticipé les difficultés intégrationnistes, entre guillemets, parce que évidemment on peut gloser sur le terme intégration, dans le territoire national. Ensuite, nous payons aussi ce que j'appelle le tribut de la question sociale. C'est-à-dire que la question religieuse et le revivalisme, entre guillemets, de l'islam, s'est greffé sur une question sociale qui est la question des quartiers prioritaires et de la place de ces quartiers dans la société française. Et il s'avère que dans ces quartiers, il y a une forte population de culture musulmane et de confession islamique auxquelles cette jeunesse, évidemment, est partie intégrante de ce récit. Donc la République française s'est trouvée dans une difficulté post-impériale, la France post-impériale, qui a oublié et qui est entrée dans une amnésie historique vis-à-vis de son passé, parce qu'il ne faut pas oublier, et vous le dites souvent, que la France a été une puissance musulmane. Donc nous avons aujourd'hui une sorte d'amnésie historique pour voir la place, de l'islam dans l'histoire et la mémoire nationale. Et ensuite, l'intégration, on va dire, entre guillemets, des enfants des classes prolétarisées dans le tissu social français. Et nous avons, me semble-t-il, et c'est là où c'est un défi républicain pour reprendre le thème de votre émission, la question scolaire.
Oui.
Parce que pour moi, il me semble que c'est sans doute la politique publique par excellence où, malheureusement, nous avons les réussites les plus, je dirais, criantes, mais aussi les échecs, hélas, les plus patents.
Oui, et la question scolaire, elle est tout aussi cruciale comme les enjeux cruciaux que vous avez mentionnés, Shihab Nasser. Certes, il y a ces difficultés sociales et on est dans une lecture sociologisante de toutes nos difficultés. Mais comment, selon vous, vous qui êtes un observateur avisé, on va petit à petit glisser dans une approche ou dans un refuge politico-identitaire de type religieux? C'est parce que les difficultés sociales existaient avant aussi, mais les parents de cette génération, ou même leurs grands-parents, n'étaient pas arc-boutés sur la question religieuse comme nous le voyons maintenant depuis quelques années.
Il me semble que vous me posez une question cruciale, à laquelle j'ai un tant soit peu réfléchi. Les parents de cette génération étaient porteurs d'un islam traditionnel. Et cet islam traditionnel est enraciné dans une certaine généalogie de l'islam classique. Et cette génération de parents n'a pas pu transmettre cet islam traditionnel parce que c'est un islam oral. Et cette nouvelle génération qui était en quête d'identité et qui a subi aussi, il faut le dire, les convulsions de l'islam à l'échelle globalisée, s'est interrogé sur cette personnalité islamique. Et cette personnalité islamique, ils l'ont interrogé à travers une relecture des textes. Donc ils ont été confrontés à une littérature religieuse qui, elle, s'inscrivait évidemment dans un rigorisme traditionnaliste parce que c'est une littérature qui est aussi proliférante dans les études de la pensée islamique. Et les parents n'ont pas su trouver des réponses théologiques à leur islamité et dans la transmission de cet islam auprès des jeunes générations. Donc il y a eu un conflit d'interprétation du religieux entre ces deux générations. Et cette oralité, elle n'a pas pu, hélas, parce que je suis évidemment sensible aux vestiges de l'islam traditionnel de mes aïeux, aux jeunes générations, parce qu'ils n'ont pas su trouver un matériau intellectuel pour pouvoir le transmettre.
Oui, d'une part, et d'autre part, ne pensez-vous pas que cette jeunesse aussi était, c'est une question que je vous pose, la cible prioritaire d'une offensive orchestrée, la fameuse offensive islamiste ou fondamentaliste délibérée?
Il me semble que vous avez raison sur ce point. En témoigne l'histoire de l'attrait du djihadisme en France auprès d'une minorité, évidemment infime, de la jeunesse franco-musulmane. Je pense à l'histoire de l'Afghanistan. À la fin des années 70, on trouve déjà des poches d'une partie de la jeunesse qui est attirée par ce récit du djihad, la question de la Bosnie et la guerre civile algérienne. L'Irak, dans les années 2000, au moment de l'intervention américaine en 2003, et récemment, voilà,
la Syrie,
la Syrie et le Cham. Donc on voit qu'il y a une généalogie historique, évidemment, mais qui touche, évidemment, il faut le préciser quand même, une infime minorité. Mais il faut prendre au sérieux ce récit.
Oui, vous avez raison de dire qu'il faut le prendre au sérieux, mais peut-être une lueur ou un trait rose dans ce tableau noir, c'est dans la même situation sociale, puisqu'on est dans cette grille de lecture, dans les mêmes conditions, dans le même environnement, on a 10 fois plus de jeunes gens, garçons et filles, mais davantage de jeunes garçons, qui vont s'enrôler dans l'armée française que d'aller dans le djihadisme, ou l'aventure djihadiste. C'est-à-dire que cette offensive n'aurait pas pris comme l'auraient souhaité ses initiateurs.
Alors je dirais que c'est la complexité des temps présents. La complexité des temps présents, c'est cette double polarité. C'est-à-dire que la complexité, c'est de souligner ce récit franco-islamique face à ce récit mortifère de l'idéologie djihadiste. Et ces deux récits islamiques sont en opposition. Et en même temps, ils montrent à la société française la complexité et les métamorphoses du fait religieux islamique dans notre société.
Et comme ce fait religieux islamique et toutes ces métamorphoses, tout ça est mis en exergue par des attributs, par des accoutrements, par des comportements, c'est ce qui apparaît le plus. Et ça, il apparaît très inquiétant.
On est aujourd'hui dans depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, dans une redéfinition de l'homo islamicus par cette jeunesse. La difficulté à laquelle nous assistons, mon cher Raleb, c'est quelle offre, quel matériau intellectuel aujourd'hui nous pouvons transmettre à cette jeunesse. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les raisons pour lesquelles il y a aussi ce retour ou ce recours aux religieux. J'en témoigne une réalité sociologique dans ces quartiers prioritaires, là où les difficultés se posent avec acuité, c'est la déliquescence des mouvements d'éducation populaire. Ces mouvements d'éducation populaire qui faisaient le lien entre la République fraternelle et la question sociale se sont complètement délités justement dans ces quartiers. Et le religieux est venu et remonté à la source face à l'épuisement des idéologies séculières. Nous avons aussi assisté dans les années 70-80 à la fin et à l'assèchement justement des grands récits idéologiques. Et la question islamique est revenue comme un grand récit collectif pour une partie de cette jeunesse. Après, la question à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est comment promouvoir un héritage, cet héritage de l'humanisme arabe à laquelle vous êtes attaché et je suis attaché, pour montrer qu'il y a d'autres récits justement à offrir à cette jeunesse, pour faire société et pour que les lumières d'islam rencontrent cette France des Lumières. Nous avons, me semble-t-il, un grand défi de civilisation.
Oui, et nous aurons à en parler maintenant et à nous y atteler, nous tous qui que nous soyons, qui avons la faiblesse d'être des hommes et des femmes de bonne volonté. Pour l'instant, poursuivons un peu le diagnostic, avez-vous au moins une idée pourquoi y a-t-il eu, en dehors de l'implosion de l'intérieur ou la déliquescence le délitement des idéologies séculières, pourquoi il y a eu cet effondrement de la présence de l'éducation populaire fraternelle dans ces zones dites sensibles, ces quartiers difficiles, etc. Vous voyez bien que le vocabulaire est très piégé quand il s'agit de parler de ces zones, de ces parties, de ces territoires même de la République. D'aucuns les ont qualifiés de perdus.
Il y a un élément historique, sociologique, qu'il faudrait sans doute souligner, c'est la crise de la mémoire ouvrière. Et cette crise de la mémoire ouvrière, il ne faut pas oublier qu'une grande partie des migrations arabo-africaines ces 30-40 dernières années était liée de manière sociologique à cette histoire ouvrière. Et la crise aussi intellectuelle de la gauche, la crise de l'internationalisme, a fait que l'horizon de l'espérance s'est profondément rétréci. Et la question et le retour de la question islamique est venu comme un palliatif à cette crise de l'espérance, laïque, sociale.
Oui, mais peut-être pour ajouter un élément qui rend la question encore plus complexe, c'est que les musulmans de France, peut-être pas dans les mêmes proportions, et même sûrement pas dans les mêmes proportions, n'étaient pas tous uniquement de la couche dite prolétarisée ou populaire. On a, ce que j'ai l'habitude de dire, ceux qui sauvaient et sauvent toujours le marché des Hurlings à Deauville ou le marché des Pouliches à Longchamp. Cela aurait pu ou aurait dû en tout cas contribuer à l'effort de solidarité, pas uniquement à l'égard de leurs propres corréligionnaires, mais ceux qui parmi eux sont citoyens, à l'effort de solidarité pour une partie de leurs concitoyens. Mais ils ne l'ont pas fait.
Non, mais là vous touchez une autre question qui est toujours contemporaine. C'est le lien qui n'a jamais existé, me semble-t-il, en France, entre cette élite française musulmane et l'ensemble du corps social islamique. Dans les années 70-80, je pense à des intellectuels comme Michel Chodkiewicz, Vincent Mansour-Monteil, sont des intellectuels convertis et qui aujourd'hui sont presque inconnus du grand public. Donc les années 70-80 sont encore le dernier grand moment de l'intelligentsia française qui était passionnée et qui était enivrée par la chose musulmane. Et aujourd'hui, et à travers ce récit depuis 30-40 ans, je dirais il y a une régression intellectuelle autour de la connaissance du fait religieux et de la passion qu'a pu avoir dans l'histoire la chose musulmane au sein de l'intelligentsia, parce que c'est une problématique, comme vous l'avez souligné, à laquelle j'ai été très sensibilisé.
Oui, Shihab Nassar, vous parlez, à juste raison, de cette, c'est moi qui la qualifierais ainsi, aristocratie intellectuelle. Vous avez évoqué Vincent Monteil, Michel Chodkiewicz, sa fille même, Claude Hadas et d'autres. Là, c'est au niveau des idées. En revanche, j'ai évoqué la question proprement sociale au niveau aussi des moyens financiers qui sont pour certains dilapidés dans d'autres départements de la vie économique et autres, mais pas investis utilement pour prendre en charge la prise en charge éducative et sociale de cette jeunesse laissée pour compte.
L'investissement financier a été principalement articulé autour de la création des lieux de culte, sans s'interroger sur la prise en charge sociale et la transmission éducative religieuse. Et incontestablement, une partie des fonds dans les années 80, 90 et au début des années 2000 étaient des fonds étrangers, ce qui est moins le cas aujourd'hui, parce que contrairement aux opinions reçues, il y a énormément de flux financiers au sein des lieux de culte islamiques en France. Et incontestablement, cette symbolique autour de l'édification des lieux de culte, eu égard à la raréfaction des lieux de culte islamiques dans la société française, a été obérée par l'absence de réflexion et d'anticipation autour de l'éducatif et du volet social. Même si les choses commencent à évoluer et il me semble que nous sommes en pleine transition. Mais nous payons évidemment, incontestablement, ce déficit de transmission. Mais ça pose aussi une autre question. Quelle est la place, aujourd'hui, des intellectuels organiques, quand je dis intellectuels organiques...
Sont au sens de Gramsci.
Voilà, exactement. Auprès, justement, du peuple. Et notamment, l'absence de cette intelligentsia dans les lieux de culte, là où l'islam se fait. Parce que l'islam se fait, évidemment, principalement aussi dans cette vie cultuelle. En témoigne un préfet de la République qui a dit qu'il manquait des Bernanos à l'islam de France. C'est-à-dire ce lien entre la vie cultuelle et la vie intellectuelle, le lien entre culte et culture.
Oui, et c'est vrai peut-être qu'on se rend compte après coup que, à côté des lieux de culte, il eût mieux valu qu'on construisît des centres culturels pour immuniser d'abord cette jeunesse. sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue Shihab Nasser qui a dédoublé sa formation d'islamologue par une formation en histoire. C'est un historien des idées et un passionné de l'histoire de la vie intellectuelle, pas uniquement en France, mais un peu partout de par le monde. Shihab Nasser, on a planté le décor, on est encore dans le diagnostic. Nous aimerions un jour que l'on eût à ne pas parler de ces choses-là. Dans cette deuxième phase de l'émission, comment voyez-vous la sortie de crise? Après le diagnostic, il faut une médication. Et la médication appropriée passe par quoi?
Il me semble que une propédeutique, pour employer un terme chic, au sein de l'institution scolaire, me semble de grand augure pour le devenir de notre société. Et cette propédeutique, elle passe par l'introduction de la littérature arabe dans les humanités, la restitution de la complexité de la chose franco-musulmane dans l'histoire de France.
La littérature arabe traduite.
Traduite, oui, oui, bien sûr.
Parce qu'il y a tout le débat, et nous savons ce que nous pensons de la langue arabe, de son lyrisme, de sa poésie intrinsèque. C'est une langue de diplomatie, etc. Et quand on a une députée qui pense que c'est la langue du communautarisme, je pense qu'elle se fourvoie. Mais là, c'est simplement pour qu'on ait des, selon vous, si je vous écoute, c'est que avoir dans les programmes quelque chose qui relève de la littérature universelle, de facture arabe, traduite en français pour ouvrir pour l'ensemble des citoyens en devenir leur horizon à d'autres apports et qui colmate la brèche identitaire d'une partie de cette jeunesse.
Exactement. Pour donner des exemples concrets, Aragon disait qu'il n'aurait pas pu écrire Fou d'Elsa s'il n'avait pas lu Leïla ou Majnoun des Elfleïla ou Lila, donc des Mille et une Nuits. Et les Mille et une Nuits, c'est la naissance de la littérature universelle. Antoine Galland, qui au XVIIe siècle traduit cette œuvre magistrale, va entrer dans la culture littéraire française. Je pense au roman de Courtoisie, de Ibn Hazm, au XIe siècle, qui ont façonné...
Avec son collier de la colombe.
Exactement. Ouais, vous m'enlevez le mot de la bouche, cher Alep.
De l'amant et de l'aimé.
Exactement. Pour montrer que cette littérature universelle montre une place du féminin dans la culture arabo-islamique et une beauté de la prose. Oui. Alors, et il me semble que pour donner un sentiment de prestige et de relèvement de la dignité à cette jeunesse, il faut lui montrer les vestiges et le legs civilisationnel dont ils sont les porteurs.
Sans se forcer, il n'y a pas lieu de plier les programmes à quelque chose d'une manière surfaite, parce que c'est dans l'ordre naturel des choses. En mathématiques, il suffit simplement de parler du théorème d'Al-Kashi, qui étend le théorème de Pythagore des triangles rectangles à tout triangle en jouant sur le cosinus. Ou simplement le fait qu'Al-Kashi, pour ne citer que lui, à propos des décimales après la virgule et de son calcul pour le nombre pi. Parler de ces choses comme ça d'une manière naturelle et sans avoir l'air de s'y appesantir fera entrer une bonne partie de la frange jeune de la nation à quelque chose qui devient plutôt, sinon harmonisé, au moins banalisé.
Exactement. Et puis, sachant qu'on a parlé aussi d'autorité religieuse, Raleb, et je sais que vous y attachez la plus grande importance à cette formation intellectuelle des ministres du culte, en témoigne...
Je le fais comme citoyen et en l'espèce ici comme médiateur entre vous et les auditeurs, rien d'autre.
Ouais. Et je pense au cher Tartawi au XIXe siècle, qui découvre cette France de la Restauration et qui a écrit un roman éblouissant qu'il faudrait sans doute rééditer ou promouvoir, qui est L'Or de Paris. Le titre est sublime, de voir un ouléma d'Al-Azhar vanter la courtoisie et la civilité française en considérant qu'elle est compatible avec la civilité aristocratique arabo-musulmane me semble être, en plus dans la France de la Restauration du 19e, une réponse sublime aux interrogations du temps présent et sur les questions qui nous préoccupent.
Oui, il repart subjugué et en ayant intégrer la langue française, cette fois-ci plutôt dans l'autre sens, et en ayant entre autres traduit Télémaque de Fénélon.
Ouais.
C'est un jeune aumônier né en 1801 et à l'âge de 26 ans, 27 ans, il accompagne comme aumônier une délégation d'étudiants qui viennent découvrir Paris. À ce moment-là, ils étaient éblouis par la civilisation et par la ville-lumière. Donc, vous appelez à l'émergence, à susciter des épigones de Raf Arefat Tahtawi au XXIe siècle.
Plus que jamais, je dirais. Alors, pour résumer, voilà, Ghaleb, cette probédotique, c'est ces humanités arabes dans le volet des humanités générales dans l'enseignement, la restitution de la complexité de la chose franco-musulmane dans notre histoire, qui est ambivalente, qui est marquée par cette complexité entre une philosophie de la relation et une conflictualité qu'il ne faut pas aussi nier. Mais hélas, vous remarquerez que dans le champ intellectuel, on choisit souvent soit l'un, soit l'autre. Et il faudrait, au contraire, restituer cette complexité dans le temps long.
Et peut-être, sinon dans une hybridation, au moins en tenant compte de l'un et de l'autre.
Exactement. Et c'est le dernier volet de mon triptyque. C'est cette France qui renoue avec cette grande politique méditerranéenne. Et que les Méditerranéens du Sud se réapproprient aussi, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une réciprocité, leur propre latinité.
Et leur francophonie.
Exactement. Les deux sont indissociables.
Oui. Cheikh Nasser, ça c'est le fait de commencer par la jeunesse. Vous avez parlé aussi du défi de l'institution scolaire, l'éducation nationale, et peut-être aussi un énorme travail d'éducation auprès des familles, au sein des familles elles-mêmes. Et il y a peut-être, vous me l'avez dit en préparant cette émission, qu'à l'autre bout du spectre, maintenant je suis très prudent en parlant de spectre quand il s'agit de la chose islamique, mais disons de la gamme, une formation en islamologie savante.
Nous assistons au sein du champ islamique à la force de la vulgate traditionnaliste. Et cette vulgate traditionnaliste, qui professe un discours confessant, les gens diront que c'est normal, c'est propre, évidemment, aux spécificités de n'importe quel champ religieux. Il n'empêche, bon, je mets un virgule, il n'empêche, que les outils intellectuels critiques doivent être aussi appropriés par l'islam traditionnaliste, parce que il est confronté à la Aufklärung, à la modernité, et qu'il me semble dans son intérêt que d'ouvrir les canons du discours savant religieux aux outils de l'approche historico-critique du fait religieux. Nous sommes face à un défi énorme. Et ce défi énorme, pour donner un exemple concret à nos auditeurs, c'est l'histoire des temps premiers de l'islam. Et cette histoire des temps premiers de l'islam a été fantasmée, a été aussi construite par l'école de la tradition, et qui aujourd'hui, depuis le 19e siècle, l'islamologie savante allemande, et nous avons en France une grande tradition noble de l'aristocratie intellectuelle islamisante, a posé les jalons d'une histoire critique de cette histoire de la tradition. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a un enjeu majeur que les acteurs français de tradition musulmane doivent s'approprier pour comprendre comment les canons de la tradition se sont construits dans l'histoire. En fait, l'islamologie, c'est un pas de côté pour dire comment l'islam a été façonné. Donc il y a le contenu, le discours théologique, et la construction de ce discours. Et donc moi j'ai été très attiré depuis, on va dire, une dizaine d'années, voire 15 ans, autour de cette discipline qui a incontestablement renouvelé et ouvert mes yeux sur une nouvelle approche intellectuelle.
En vous écoutant, Cheikh Nasser, vous appelez de vos voeux, mais vous n'êtes pas le seul, à ce que cette discipline recouvre, retrouve, ou sinon qu'elle est directement, à la fois ses lettres de noblesse, et qu'elle soit reconnue comme une discipline prestigieuse, et que l'université française s'honore et s'enorgueillit de l'enseigner.
Totalement. J'en veux pour preuve les travaux du regretté Mohamed Harkoun et son livre entretien avec Jean-Louis Schlegel, La construction humaine de l'islam, c'est de mettre l'accent sur la désacralisation du corpus traditionnaliste pour mieux comprendre la manière dont l'islam a été construit et façonné dans l'histoire. Et il me semble fondamental d'œuvrer dans ce sens pour comprendre les apories actuelles de la tradition. Eu égard à une conversation récente que j'ai eue avec un grand savant, et il m'a dit ces mots suivants, qui méritent, me semble-t-il, l'attention la plus grande. Daesh est l'utopie politico-religieuse du califat, nous met.
EST ou EET ? Dans Daesh est l'utopie, c'est-à-dire c'est du verbe être ou c'est de la copule ?
C'est la coordination. C'est la coordination.
Oui.
Pour dire que ce récit s'inscrit dans une histoire islamique, qu'il ne faut pas nier, mais que pour démystifier et déconstruire cette utopie politico-religieuse, il faut avoir une approche historico-critique de l'histoire de l'islam. Et sans une approche islamologique, il est très difficile de rejeter d'un revers de main ce récit. C'est pourquoi ce retour du théologico-politique en islam, mais je dirais qui existe depuis la révolution islamique iranienne, qui a remis justement dans le sillon du temps long cette utopie, il nous faut des outils. Et ces outils intellectuels, on peut les trouver évidemment dans notre histoire savante.
Oui, il y a peut-être trois aspects dans ce que vous dites, Cheikh Nasser, je les passe en revue rapidement. Et vous réagirez à l'un ou à l'autre comme vous souhaitez, nous avons encore un peu de temps. Le premier, c'est bien entendu la distinction entre le temps coranique, le moment mohammedien et le fait islamique qui est une longue et lente construction. Et cette construction humaine de l'islam, notamment restituée ou présentée dans le livre Entretien entre le regretté Mohamed Harkoun et Jean-Louis Schlegel, on peut la retrouver. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir drapé telle ou telle utopie, telle ou telle révolution, puisqu'on a parlé de la monstruosité idéologique qu'est Daesh et aussi la révolution iranienne, dite islamique, par des considérations de type islamique, alors que la révolution de Khomeini se veut aussi, sur un plan profane, comme une république que l'islam classique n'a jamais conçue ou préparée, et cette république avec ses contradictions, ses difficultés de type économique, sa gestion de l'administration sur le modèle contemporain d'un État moderne. Je vois pas en quoi l'épithète islamique viendrait justifier cette révolution, si ce n'est que d'emmétoufler des femmes, ou limiter la liberté d'expression et de conscience des citoyens, et je pense notamment aux Bahaïs, sujets de persécution, alors qu'ils sont normalement des citoyens. Et le troisième point, j'aurais dû peut-être vous les distiller que de vous les donner comme ça, ces trois volets de ma question, c'est que l'importance aussi, me semble-t-il, de la discipline qu'est l'islamologie, c'est qu'on a une difficulté d'ordre tout simplement sémantique, c'est l'islam écrit avec petit i et l'islam écrit avec grand i. On peut le lire et voir la distinction entre la minuscule et la majuscule, mais à l'oral, on ne fait pas le distinguo. Or, il y a une approche confessante, religieuse, cultuelle, spirituelle du fait islamique. Et ça, ça a toute une approche, toute une présentation. Et une autre étude sur le plan civilisationnel des cultures au pluriel dans leur profondeur historique et qui nécessite aussi une autre étude et une autre approche.
Vous avez synthétisé, mon cher Raleb, les vertus de cette approche islamologique. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment, dans notre société française, et pour nos ministres du culte, ils peuvent être confrontés, et que ces ministres du culte peuvent s'approprier cette approche islamologique. Un exemple. Un rapport récent, c'était le rapport de Rachid Benzine, avait préconisé que les instituts de théologie en France puissent être adossés à des instituts intellectuels de formation universitaire islamologique pour permettre à l'islam de la tradition d'être confronté aux outils intellectuels critiques. Et il me semble que c'est une voie salutaire. Deuxième point, il ne faudrait pas que l'islamologie se fasse sans les musulmans. Un exemple concret, encore une fois, mais qui ne touche pas cette fois l'islam, mais qui touche l'Église catholique, les dominicains, l'école dominicaine à Jérusalem, l'école biblique de Jérusalem et les dominicains d'Orient ont initié des approches profondes dans l'approche critique du fait religieux, tout en portant les apparats de la tradition. En Israël, l'école hébraïque d'Israël Finkelstein est dans une approche historico-critique du fait hébraïque, sans porter atteinte voilà, aux apparats de la tradition. Et j'appelle de mes voeux que l'islam avec un grand I, que la civilisation islamique, suive cet élan de l'intellect à l'échelle globalisée.
Donc l'islamologie ne doit pas se faire, s'enseigner et être apprise sans les musulmans, mais ce n'est pas l'apanage uniquement des musulmans.
Non.
C'est de quiconque est non. intéressé, voire passionné, par la chose islamique, par le fait islamique, et surtout par la civilisation sous-tendue par ce fait islamique.
Exactement. Et par cette approche, on peut voir que l'islam, avec un grand I, que la civilisation islamique a conjugué avec le beau et la grandeur, et il nous semble que ce récit est un antidote aujourd'hui aux identités meurtrières.
Cheikh Ebn Nasser, nous arrivons à la fin de la deuxième partie de l'émission. Il nous semble sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et vous nous entretenez de ce défi républicain qui est la prise en charge à la fois éducative, culturelle et sociale de la jeunesse musulmane. Et pour cette dernière partie, comment renouer avec toute une vision du monde fondée sur l'émerveillement, sur le raffinement, sur l'hédonisme, sur le plaisir, sur la jouissance, sur les beautés de la vie et donc sur l'esthétique qui sont, comme vous l'avez dit à l'instant, les meilleurs antidotes contre ces dérives à la fois meurtrières, mais comment petit à petit on en finisse avec ces questions de ostentatoires, ces fameux signes qui en réalité ne sont que des symboles où l'on met en avant son identité religieuse.
On assiste à un défi culturel immense. Ce défi culturel, et je le vois à travers cette jeunesse, et c'est pour ça que je m'en préoccupe, il y a une attirance pour la norme. Cette attirance pour la norme...
Jusqu'à l'obsession.
Et c'est cette attirance aussi pour cette puissance du Dieu métaphysique. on ne comprend pas la force du rigorisme ultra-traditionnaliste, du salafisme auprès d'une partie de la jeunesse, si on n'a pas compris aussi cette force et l'attrait de cette dimension métaphysique. Je disais récemment à un ami que un hadith du prophète, que le prophète aimait la beauté de la prière, la beauté du parfum et la beauté des femmes. Et je voyais dans une partie de l'auditoire que ce récit n'attirait pas. Donc nous avons aujourd'hui un chantier énorme à valoriser ce beau. Autant pour lutter contre la dérive et la composante identitaire islamique et lutter contre les Cassandres et ceux qui ne voient dans l'islam que de la violence. Voilà. Nous assistons, me semble-t-il, à un grand défi de civilisation. Et je voulais juste dire un mot. Quand je vois la manière dont notre pays est critiqué aujourd'hui en Europe centrale, eu égard à la place et à la composante islamique, et pour dire que la société multiculturelle est un échec, je pense qu'il faut renouer avec le grand projet cosmopolitique auquel l'islam peut participer, que la personnalité islamique peut renchérir et peut affermir la personnalité française. Je pense que nous assistons à un grand défi civilisationnel, que nous sommes sans doute plus dans l'ère des solutions, mais que, au regard de la complexité démographique, culturelle de notre pays, il faut réfléchir à un nouveau modèle.
Et alors, que répondez-vous à ceux qui, cette fois-ci, sans aller en Europe centrale, au sein même de la nation française, vivent cela comme un traumatisme terrible, comme une atteinte à l'identité? Alors, je ne la qualifie pas de nationale, je dirais simplement de la France. Et comment amener ça à plus d'harmonie, d'apaisement, sans utiliser des termes grandiloquents d'un côté ou relevant de la niaiserie de l'autre, pour gagner, justement, relever et gagner ce défi?
La République, c'est le bien commun. La République, c'est le mérite. La République, c'est la mobilité sociale. Et face à cette déliquescence depuis 30 ans de cette idée républicaine, il faut lui redonner une nouvelle vigueur pour montrer que l'islam, que les islams, que la diversité du champ islamique n'est en rien opposable à la République et comment les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Ou sinon, j'ai peur, hélas, que nous vivons encore des temps très, très troubles.
Et comme nous ne le souhaitons pas et nous œuvrerons inlassablement pour que ça ne se poursuive pas, et c'est déjà beaucoup ainsi, comment voyez-vous le rapport avec d'abord les autres traditions en place, avec les autres courants de pensée, d'autres métaphysiques, d'autres options philosophiques et doctrinales, pour inscrire cela sous la voûte commune de la laïcité, comme je m'évertue à le répéter toujours. Ça, il faut plus à la fois de la volonté politique, mais aussi quelque chose qui vienne des hiérarques musulmans, ou laissant le temps faire son œuvre en accompagnant dans les institutions éducatives et ailleurs.
Un petit exemple historique, mon cher Raleb. Au temps des guerres de religion, l'État a eu un grand chancelier de France, Michel de l'Hospital. Et Michel de l'Hospital, pour parer à ces fractures identitaires religieuses, apprenait l'amitié civique et Henri IV a édicté l'édit de Nantes. Je ne dis pas que nos situations aujourd'hui ne sont pas les mêmes.
Et surtout mais qu'il y a eu quelques vicissitudes après aussi.
Exactement. Et je pense que aujourd'hui, on aurait tout intérêt à revisiter cette histoire. Non pas pour coller, mais pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une grande politique de l'amitié civique et nous avons besoin d'un grand débat, parce que la République, c'est la raison et la République, c'est le débat. Et moi, j'ai toujours été favorable à la disputatio intellectuelle avec tous les courants philosophiques et tous les courants de pensée.
Et nous aimons à rappeler que la disputatio elle-même avait comme ancêtre la controverse à la maison de la sagesse de Bagdad. et elle avait comme fille la soutenance de thèse pour obtenir non seulement le grade de docteur de l'université, mais le fait de privilégier la confrontation, le débat des idées. Bon, ça, c'est ce que nous voyons, nous autres encore une fois, qui avons la faiblesse de croire que nous sommes sensés, que nous sommes détenteurs de la vision de sortie de la crise. Mais c'est bien beau de dire éducation. Comment voyez-vous, pardonnez-moi si je vous prends comme ça, mais sur le plan pragmatique, pratique, cette éducation, elle obéirait à quels critères, à quel modus operandi?
Il nous faut réinvestir le terrain, et ce réinvestissement par le terrain passe par le renouvellement de grandes éducations, de grands mouvements d'éducation populaire dans ces quartiers, en lien avec cette question islamique, pour favoriser la transmission. Aujourd'hui, je pense à une professeure de lettres qui fait un travail remarquable pour la revalorisation des humanités. Je pense à Cécile Ladjali, qui pour elle, le terme d'élitisme républicain n'est pas un gros mot, qui enseigne les humanités. Et je pense qu'on peut se servir de ce travail pour montrer que sur la question islamique, il y a tout à faire pour transmettre le beau et le legs civilisationnel à une partie de la population qui, hélas, méconnaît ce matériau. Et me semble-t-il, cette méconnaissance, elle touche de plus en plus une grande partie de notre population.
Oui, alors là aussi, il y a un énorme enjeu d'éveil des consciences, d'oser penser par soi-même, de donner la possibilité d'interroger ce qui vient des parents, ce qui est enseigné, le mot même trop fort, sur les réseaux sociaux. Donc non seulement le fait d'aiguiser l'esprit de cette jeunesse, mais la préparer à s'ouvrir à l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle, mais à s'ouvrir sur le monde, parce que le legs civilisationnel seul ne suffit pas. Il y a lieu aussi de participer à une sorte de civilisation humaine.
Il y a incontestablement un intérêt fondamental pour s'ouvrir à l'altérité confessionnelle. Je pense que ça passe en partie par le dialogue interreligieux, mais dans les lieux de culte. Combien de jeunes français de tradition musulmane qui habitent dans ces quartiers n'ont jamais vu un prêtre ou un rabbin, ou les représentations autour des autres confessions suscitent des incompréhensions, eu égard à la méconnaissance et à la non-rencontre. Et en même temps, sur le rapport au monde, de montrer que l'islam est aussi un espace-monde. Et que cet espace-monde, c'est de nouer un lien avec cette altérité. L'islam africain, l'islam asiatique, parce que c'est un sujet dont on parle très peu, l'islam malais, le legs civilisationnel en Inde, l'empire mongol, et tous ces éléments peuvent être aujourd'hui transmis à une jeunesse qui, en quête de repères, et qui a soif de connaissances.
Oui, le dialogue interreligieux dans les lieux de culte, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il a fallu l'assassinat odieux du père Hamel pour voir des jeunes gens, garçons et filles, musulmans, aller assister à des messes. Et aussi, peut-être suite à ces opérations dites le thé de la fraternité, aux opérations portes ouvertes sur les mosquées, qu'il y a un début, en tout cas ça se fait maintenant, de rencontres interreligieuses au sein même des lieux de culte islamique. Si c'était itinérant pour aller dans d'autres lieux, ça serait encore formidable. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Shihab Nassem, de votre concours et de cet entretien. Je rappelle à nos chers amis auditeurs que vous êtes islamologue vous-même, vous êtes historien des idées, vous êtes un passionné de l'histoire de la vie intellectuelle, aussi bien en France que de par le monde. et nous avons parlé du défi républicain qui consiste à prendre en charge sur les plans éducatifs, culturels et sociaux la jeunesse d'une manière générale et tout particulièrement la jeunesse musulmane. Merci encore une fois. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.